la maturité du couple, se pardonner mutuellement de n'être que ce qu'on est. Alors, un thème un peu sibyllin, qu'on va essayer d'approfondir avec vous. Il y a plein de chaises devant, en fait, les derniers arrivés. Il faut que je parle fort. Je vais essayer de parler fort. Je vais être épuisé à la fin. La raison du choix de ce thème sur un des aspects du pardon, c'est que dans notre petit mouvement des fraternités Saint-Jean-Couple, on a choisi comme thème d'année le thème du pardon. Et donc il y a eu une journée de rentrée à l'automne dernier, et puis deux conférences déjà, une à Paris dans le 15e et puis une à Puteaux. Et puis c'est la troisième conférence où j'essaye de mettre au service des frates qui sont dynamiques. Et grâce à vous tous, je vois que la frappe qui a organisé cette soirée a fait preuve de dynamisme en répandant la bonne nouvelle du thème de ce soir. Et donc, c'est le troisième volet d'une petite série de conférences qu'on a faite cette année. Et comme on a parlé des aspects profonds et des grands aspects du pardon, la proposition de Christine, d'une de nos frappes, c'était de dire, est-ce qu'on pourrait réfléchir sur ce thème qui est... j'allais dire, une dimension du pardon au quotidien. Se pardonner l'un à l'autre de n'être que ce qu'on est. Alors vous allez voir, je vais essayer de ne pas parler que de vous, parce que je ne vis pas en couple. J'ai en couple avec la Vierge Marie, avec l'Esprit Saint, avec... Mais il y a quand même pas mal d'analogies entre la vie commune dans une communauté religieuse et puis la vie du couple. Donc un certain nombre de choses que je vais vous dire, j'espère, rencontreront votre expérience. Et cette fin de cycle, entre guillemets, sur le pardon, nous prépare aussi d'une manière très belle à cette fête de la Pentecôte. Bonsoir. À cette fête de la Pentecôte où eh bien, nous recevons l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ce n'est pas une bête curieuse, ce n'est pas le dessin de l'Esprit Saint qu'il y a dans la basilique Saint-Pierre de Rome. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un, c'est l'esprit d'amour. Et il me semble que vous êtes les plus réceptifs d'une certaine manière à l'amour de Dieu. Alors je rajoute un petit élément biographique. J'accompagne les frères de Saint-Jean-Coupe depuis quelques années, mais mon travail principal depuis 17 ans maintenant, c'est d'écrire une thèse de doctorat sur l'unité de l'Église. Et dans ce travail sur la nature de l'Église et donc sur son unité, il y a une chose qui est très importante que je vous dis, et c'est la bonne nouvelle de ce soir, il n'y aura que des bonnes nouvelles, rassurez-vous, mais c'est la première bonne nouvelle, c'est que je crois que vous aidez l'Église d'aujourd'hui, dont vous faites partie et que vous êtes, à découvrir quelque chose de tout à fait unique que l'Esprit Saint n'a pas montré à l'Église des siècles passés. C'est que c'est vous le cœur de l'Église. Ce n'est pas nous les prêtres. Parce que dans la vocation de l'Église, qui s'achemine vers la fin des temps, eh bien, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, l'image de l'Église, la présentation de l'Église que Dieu nous donne à la fin des temps, juste avant que le Christ revienne, c'est l'Église qui est l'épouse de l'agneau, donc du Christ qui a donné sa vie pour nous. De la Genèse avec Adam et Ève, et Adam et Ève fait l'un pour l'autre, on va en reparler un petit peu ce soir, mais je ne vais pas vous faire la catéchèse de votre préparation au mariage. De la Genèse à l'Apocalypse, ce qu'on appelle le thème de la sponsalité, que Dieu est époux et que Israël est l'épouse dans l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament, que le Christ est l'époux et que l'Église est épouse, eh bien c'est votre mystère. Ce qu'est l'Église dans l'éternité, vous l'êtes déjà dans le temps. Et donc l'Église qui s'achemine vers l'éternité, elle a besoin de voir qui vous êtes et comment vous vivez votre vie de couple en laissant toute sa place au Seigneur, pour comprendre un peu mieux ce que toute l'Église sera dans le ciel. Donc vous vivez par anticipation la vocation éternelle de l'Église. Et je vous remercie. Parce que ça, c'est hyper grand dans le cœur de Dieu, que vous soyez déjà au cœur de l'Église quelque chose de son identité la plus profonde. Et donc, ça c'est le côté admirable et immense qui ouvre notre cœur à la folie du regard de Dieu sur votre couple, mais il y a bien sûr les imperfections, et c'est ça dont on va parler ce soir, pour voir comment le pardon qui doit être donné dans le couple, sur ce lieu de découvrir ses limites, et de se faire pardonner, et de pardonner à l'autre de n'être que ce qu'il est ou que ce qu'elle est, ou se faire pardonner de n'être que ce qu'on est, et de ne pas pouvoir remplir toutes les attentes de l'autre, et bien que ça aussi, mes imperfections, j'allais dire radicales, elles peuvent devenir dans le couple, et c'est pour ça que le Seigneur les laisse, elles peuvent devenir un levier pour quelque chose d'incroyable. Vous savez bien, quand vous n'avez pas le moral dans le couple et que le conjoint devient un bourreau, vous relisez le Porche du mystère de la deuxième vertu de Charles Péguy, qui dit, entre autres, qui se pose la question, pourquoi Dieu permet que nous tombions 20 fois de suite en péchant ? Moi qui suis prêtre et qui pensais que quand je serais prêtre, parce que j'entendrais beaucoup de confessions, ça serait beaucoup plus facile de me confesser, rassurez-vous, ce n'est pas le cas. J'ai autant de mal que vous à me confesser. Ça m'énerve, je n'ai pas envie, je repousse ça le plus possible. Tout ce qui est pénible à dire, on le prépare bien, mais la préparation de la confession, ça consiste juste à préparer la phrase du truc qui nous dérange vraiment beaucoup et qu'il va falloir dire de la manière la plus subtile possible pour, pas être, pour être sûr que le prêtre ne pose pas des questions et en même temps pour dire le minimum vital pour qu'il soit content, quoi. Vous voyez, on est tous un peu pareil, quoi. Là, pourtant, dans ce travail de la grâce, il y a une bonne nouvelle, c'est que vos imperfections et l'acceptation de vos imperfections et le pardon l'un à l'autre de ce que vous êtes en n'arrivant pas à être plus que ce que vous êtes, eh bien, Dieu s'en sert pour vous ouvrir à quelque chose d'encore plus grand. Et ça, c'est quand même assez prodigieux. Et ça, on va le voir tout à la fin, ce soir, ça s'appelle la miséricorde de Dieu, que Dieu est capable de regarder en nous ce qui est le plus limité pour en faire quelque chose d'immense. Alors, je voudrais regarder quatre choses avec vous ce soir. Je ne sais pas s'il faut que je mette en haut ou en bas. En haut, j'aurais un peu moins de mal à parler, mais je me sens trop haut par rapport à vous. Je voudrais regarder quatre petits points avec vous. L'amour entre époux et épouse au quotidien. Alors vous allez me dire, de quelle autorité ce brave frère nous parle-t-il de ça alors qu'il n'en vit pas. En tout cas, je vais quand même essayer de vous dire quelque chose. Je vais vous parler ensuite des dangers du couple au quotidien à l'âge de la maturité. Et l'âge de la maturité, c'est pas que 77 ans comme dans les jeux Fernand Nathan. Ça peut être après 3 ans de couple, 5 ans de couple. L'âge de la maturité, il est différent pour chacun. Ensuite, je vais regarder avec vous... Qu'est-ce que veut dire se pardonner mutuellement de n'être que ce que l'on est ? Et puis un quatrième point, ça fait beaucoup, comment le Christ se saisit de cette attitude d'humilité ? Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Parce que de plus en plus, je découvre que les couples qui vont pas bien, c'est tous les couples à un moment de leur vie, eh bien ça suffit pas de les écouter bravement pendant des heures, raconter toutes leurs histoires, qui sont toujours les mêmes et qui sont toujours douloureuses. C'est qu'il faut aussi inviter un moment le bon Dieu là-dedans, quoi. Là, je reviens d'une convention complètement délirante. Quand ça revient dans 2 ans, surtout ratez pas ça, c'est l'expérience la plus délirante que j'ai faite de toute ma vie. À Cergy-Pontoise, dans le hall des expositions, j'étais à une convention avec 5000 personnes, des protestants, des pentecôtistes et des catholiques. Et on a prié pour plein de choses différentes, et notamment pour l'unité de l'Église, et avec des frères et sœurs de plein de confessions différentes. Et c'était une expérience absolument incroyable, aussi de l'unité, du pardon mutuel. Il y a un de mes frères qui a discuté avec deux petites filles de pasteurs, qui étaient toutes les deux filles de pasteurs, et elles lui ont demandé pardon au nom de tous les protestants, de tout le mal que les protestants avaient fait aux catholiques, depuis le début du protestantisme, en n'étant pas charitable à leur égard. Oui, si on osait faire ça dans nos couples et dans nos communautés religieuses, le ciel descendrait sur la terre. Alors, premier point, quelques réflexions sur l'amour entre époux et épouse au quotidien. J'ai envie de vous poser cette question que je me pose moi-même, à l'égard de mes propres frères et de ma communauté. La question suivante. Pourquoi découvrons-nous celui ou celle que nous avons choisi il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 40 ans, tellement différent de nous à l'âge de la maturité ? Plus on grandit dans la vie de couple, et plus on découvre que l'autre est différent. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Je ne vais pas répondre tout de suite à la question. Le livre de la Genèse nous dit en une phrase, « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. » Vous connaissez ça par cœur, Genèse 1, 27. Cette altérité entre l'homme et la femme, qui peut être pesante quand les différences deviennent douloureuses, qui est aussi un défi constant, si Dieu nous a mis, hommes et femmes, les uns auprès des autres, c'est pour que on se fasse grandir mutuellement. Il y a une intention de Dieu là derrière. Et redécouvrir l'intention de Dieu au quotidien dans un couple ou dans une communauté religieuse quand tout le monde se dispute, dans le prieuré de Troussure, dans l'Oise, la maison où le père Caffarel a habité, on a eu des années difficiles, on a un prieur qui a quitté le couvent un soir sans crier gare en envoyant un mail à chacun de ses frères. Et ça, voilà, ça arrive dans les couples, ça arrive dans les couvents aussi. Il a fallu gérer la situation. Ça nous a aussi posé des questions sur notre manière d'être charitables les uns avec les autres. Cette altérité, non seulement entre hommes et femmes, mais aussi entre personnes différentes, eh bien, elle est une invitation de Dieu. Et elle a une dimension à la fois naturelle et surnaturelle. Alors, je vous donne juste, vous voyez, des petites clés de lecture à des niveaux différents, en utilisant trois auteurs à des niveaux différents, pour vous montrer combien c'est complexe, cette réalité de l'homme et de la femme. Et je ne veux pas passer le plus de temps là-dessus, parce que c'est des choses que les plus aînés d'entre vous avaient déjà entendues des milliers de fois. J'aime bien citer celui à l'école duquel j'ai été formé, qui est saint Thomas d'Aquin, donc un théologien dominicain du XIIIe siècle, qui se pose la question si c'est la ressemblance ou la dissemblance qui est la cause de l'amour. Et alors il dit, c'est d'abord la ressemblance qui est la cause de l'amour. Parce que on découvre dans l'autre quelque chose qui fait regarder l'autre comme un autre soi-même. Et saint Thomas dit, il y a deux manières de se ressembler. On peut se ressembler parce qu'on a tous les deux la même qualité, alors il va employer un mot un peu barbare, philosophique, en acte, qu'on vit déjà, on aime le VTT tous les deux. Et on pratique déjà le VTT. On se rencontre un week-end VTT. Très bien. À partir de ça, il y a une affinité qui naît, et puis autre chose qui naît, et ça peut être le VTT, la danse, la prière, un groupe charismatique, la chorale du village, tout ce que vous voulez. Et puis, saint Thomas va dire, il y a aussi une autre manière de se ressembler, c'est quand il y en a un qui vit la ressemblance en acte et l'autre en puissance. Mademoiselle fait l'école des beaux-arts et est une peintre tout à fait éminente dans ses jeunes années. Monsieur aimerait bien se mettre à la peinture. Il ne vit pas la compétence de la peinture avec la même compétence qu'elle parce qu'il ne l'exerce pas de la même manière, mais il s'y intéresse aussi. Ça fait déjà un élément de ressemblance. Donc saint Thomas dit, il y a un élément de ressemblance qui fait que vous vous êtes choisi. C'est bien évident, mais vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas si évident que ça, à cause d'un autre élément que je vais vous présenter. Je vous cite, donc ça c'est le théologien, je vous cite une philosophe, Edith Stein, en 1932, qui va faire une conférence, donc Edith Stein, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, qui est juive, qui va être philosophe, qui va être la première assistante de Husserl, un phénoménologue allemand, qui va être la première femme à essayer d'avoir une habilitation pour enseigner la philosophie à l'université en Allemagne, qui va se faire refuser 4 fois de suite l'habilitation, qui va se convertir au christianisme, qui va devenir carmélite et qui va mourir à Auschwitz. Donc voilà, vous connaissez son histoire. Eh bien, elle a fait en 1932 une conférence absolument extraordinaire qui s'appelle « La vocation de l'homme et la femme selon l'ordre de la nature et de la grâce ». Et elle explique d'une manière absolument géniale, moi je n'ai rien trouvé de mieux pour l'instant, qu'elle explique la complémentarité entre l'homme et la femme de cette manière-là. Je vous fais le petit dessin, elle ne le fait pas, mais c'est le résumé de sa conférence qui est assez longue. Alors, je mets toujours l'homme parce que je suis un homme, mais en fait, il faut commencer par la femme, parce qu'elle est une femme. Et, il faut faire un petit tableau où elle dit la complémentarité de structure entre l'homme et la femme, c'est la suivante. C'est que Dieu a créé l'homme et la femme avec la même intelligence et la même volonté. C'est ce qu'on appelle l'âme en philosophie et en théologie chrétienne. Mon âme est composée de mon intelligence, capacité de connaître, et de ma volonté, capacité d'aimer, capacité de vouloir, capacité de désirer. Et Edith Stein dit, la manière dont l'homme et la femme sont créés par Dieu se complète parfaitement. La femme, son premier accès au réel, c'est celui de la volonté, du cœur. Et en second lieu, l'intelligence se met au service de ça. Ça ne veut pas dire que les femmes sont des idiotes, ça ne veut pas dire qu'elles sont désaffectives. Là, je vous donne quelque chose de sérieux, au-delà des stéréotypes idiots qu'on a tous les uns sur les autres et qu'on s'envoie quelquefois à la figure quand les choses sont plus difficiles. Même dans les couvents entre frères et sœurs, je vous rassure, ça existe. Et alors que Edith Stein dit, pour l'homme, son accès au réel, c'est plutôt par l'intelligence et ensuite par la volonté. Eh bien, voilà, c'est ça qui fait qu'on est complémentaire et qu'on a besoin d'être complémentaire. Parce que ce qui est dominant chez la femme est plutôt un peu poussif chez l'homme. J'espère que je ne trahis pas de secret, parce qu'il y a plusieurs couples que j'ai mariés ici. J'ai toujours posé la question aux couples que j'ai mariés. Pour vous, aimer, qu'est-ce que c'est ? C'est une des deux premières questions que je pose. Eh bien, je n'ai jamais, dans les années de ministère où j'ai préparé des couples au mariage, je n'ai jamais vu autre chose que le fiancé qui se tourne vers la fiancée et qui dit « Joker, sur ce coup-là, là, tu réponds la première. » Pour vous, messieurs, pour nous, les hommes, ce n'est pas très facile de parler de cette dimension du cœur. Alors, Edith Stein dit « L'homme, il a besoin de la femme pour être éduqué à aimer. » Je trouve ça très beau. Et la femme, va dire Edith Stein, elle a aussi besoin de l'homme quand ça tourne à l'intérieur et qu'une petite phrase devient la fin du monde. Eh bien, elle a besoin de l'homme qui lui dit « Mais ce n'est pas la mer à boire. » La vie continue quand même, on va continuer à s'aimer. Et quand il lui a dit qu'elle était une idiote et qu'elle se sent mise en cause existentiellement de telle sorte qu'elle est réduite à un petit tas de poussière, et bien en fait, il va lui l'aider à comprendre que c'est dans la situation qu'il l'a traité d'idiote. Ce n'était pas ontologiquement, existentiellement. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec vos histoires de couple, évidemment, mais au cas où ça pourrait avoir quelque chose à voir, je vous le dis quand même. J'aime bien cette petite typologie, vous voyez, qui est toute simple, et qui est de dire, voilà comment Dieu, selon Edith Stein, le Dieu créateur, permet qu'il y ait une complémentarité entre l'homme et la femme. Alors, je vous laisse continuer. On est en 1932, hein, on n'est pas en 2015, avec la théorie du gender et toutes les questions afférentes à ça. Donc, je ne rentre pas là-dedans, parce que sinon, il y en a pour toute la nuit. Voilà, Edith Stein donne un autre petit outil qui permet de comprendre, au point de vue naturel, la complémentarité de l'homme et de la femme. Ça, c'était les deux bonnes nouvelles. Vous voyez que Dieu a voulu cette complémentarité entre l'homme et la femme, au point de vue surnaturel, mais qu'il y a un élément naturel. Là, je descends dans un bas-fond un peu en dessous, vous voyez, un aspect théologique, un aspect philosophique, et maintenant, je vais vous donner une petite clé psychologique, et c'est là où la mauvaise nouvelle commence, temporairement. C'est que la psychologie contemporaine a rajouté quelque chose à cette vision de l'homme et de la femme, assez belle, et si vous lisez la Genèse, commentée par Jean-Paul II dans les catéchèses sur la théologie du corps, vous avez 127 catéchèses absolument admirables que vous avez peut-être entendues, ou lues, ou je ne sais pas quoi. Mais si on descend dans l'aspect psychologique, il y a une mauvaise nouvelle. C'est que Freud s'est rendu compte que l'homme ne fonctionnait pas qu'avec sa liberté, son intelligence, sa volonté, sa conscience, mais que l'homme, quand je parle de l'homme, c'est en général, sauf quand je spécifie l'homme et la femme de manière précise, qu'il y a aussi en chacun de nous quelque chose qui s'appelle l'inconscient. Et l'inconscient, il a un rôle extrêmement important. Et la très mauvaise nouvelle pour vous, les couples, c'est ce que des psychologues contemporains, notamment quelqu'un qui s'appelle Arvil Hendricks, ont développé de manière absolument admirable. C'est un psychologue, un psychothérapeute américain qui a écrit un livre qui a été édité en plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Et en français, son livre s'appelle « Le couple mode d'emploi ». Vous trouvez ça sur Amazon facilement. La très mauvaise nouvelle de Arvil Hendricks, c'est que la raison... Ne pleurez pas tout de suite, parce qu'il y a encore une bonne nouvelle qui va venir après, mais il faut que vous restiez jusqu'à la fin de la conférence, je ménage mon suspense. La très mauvaise nouvelle, c'est que les raisons pour lesquelles vous vous êtes choisis en couple, le jour où vous êtes demandé mutuellement la main, ou que l'un a demandé à l'autre, maintenant il n'y a plus que des femmes, plus que des hommes, plus seulement des hommes qui demandent la main de leur fiancé. Moi j'ai deux frères mariés qui se sont mariés parce que leurs deux fiancés les ont demandés en mariage. Donc c'est moins romantique, mais c'est, voilà, ça joue aussi. Eh bien... La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart du temps, dans 95% des cas, les raisons pour lesquelles vous êtes choisi quand vous aviez 20 ans ou 25 ans, c'est des mauvaises raisons. C'est votre inconscient qui vous a dit « cette fille-là, c'est la femme de ma vie, ce mec-là, c'est l'homme de ma vie ». Et ça, c'est ce que Arvil Hendricks appelle le couple inconscient. Vous avez réagi un peu au radar en choisissant telle ou telle personne. Mais finalement, vous disiez ça va aller, et puis vous avez checké un peu la liste des items, et puis vous disiez, bon, grosso modo, ça ne pourra pas être pire qu'avec une autre ou avec un autre, donc allons-y. Mais Arvil Hendricks dit, ça ne fait pas un couple qui dure toute une vie. Parce que les raisons pour lesquelles, je vous le dis en hyper ramassé, mais dans son livre, il y a des exercices que vous pouvez faire à la maison, vous n'avez pas besoin d'aller voir un psychothérapeute tout de suite. C'est de faire des exercices en couple pour vous rendre compte qu'est-ce qu'il y a comme qualité chez vos parents, et vous ne différenciez pas votre père, votre mère, ou si c'est votre grand-mère qui vous a élevé, vous rajoutez votre grand-mère, les plus belles qualités des parents, des personnes qui ont été importantes pour vous dans la petite enfance, vous notez tout ça, et après vous en choisissez deux ou trois, et les défauts les pires de ces personnes qui vous ont élevé, vous en choisissez deux ou trois, et vous les entourez sur votre petit dessin. Et bien après, vous posez la question dans un instant de vérité effroyable devant le Saint-Sacrement, quels sont les défauts principaux de mon conjoint et les qualités principales de mon conjoint? Eh bien, c'est exactement les mêmes. Donc, vous avez choisi votre conjoint pour des raisons inconscientes qui sont la manière dont votre inconscient fonctionne par rapport à ceux qui vous ont éduqué, qui vous ont appris vos premières réactions personnelles. Mais la très, très, très mauvaise nouvelle, c'est que vous avez choisi un conjoint qui a les défauts que vous n'aimez pas chez ceux qui vous ont éduqué. D'où les difficultés qui peuvent survenir de manière tout à fait hypothétique dans un couple, au long d'une longue vie de couple, mais qui sont quand même très réelles et je ne vous fais pas de dessin, et qui font que voilà, le couple il va devoir passer de son expérience d'inconscience, ou je sais pas quoi, ou de choix inconscient, à ce que Arvil Hendricks appelle dans un deuxième temps le couple conscient. Et ça c'est le travail de la maturité, qui peut se faire après 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans de vie de couple, de se dire, eh bien, les raisons pour lesquelles on s'est choisi il y a 25 ans ou il y a 10 ans, si ce n'est pas complètement les bonnes, on peut retravailler dessus pour essayer de se choisir maintenant pour des bonnes raisons. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, je laisse ce point-là pour avancer sur la suite. Donc, à la question « Pourquoi découvrons-nous celui ou celle que nous avons choisi il y a 10 ou 20 ans tellement différent de nous à l'âge de la maturité ?» Si je reprends très rapidement tout ce que je vous ai dit, parce que le choix personnel de l'autre ne relève pas que du psychisme conscient, donc de cette activité de l'âme spirituelle, intelligence, capacité de connaître et volonté, capacité de choisir, mais aussi de l'inconscient, et qu'il faut en tenir compte. Le deuxième élément qui est très important, et on va y revenir ce soir, c'est aussi parce que la raison pour laquelle l'autre je découvre différent, parce que l'amour est en chemin. Je suis en chemin, le conjoint est en chemin, et notre amour est en chemin. Et vous allez voir que quand c'est difficile dans un couple, eh bien on a raté des étapes du chemin. On n'a pas compris que le chemin, il engageait plus que ce qu'on croyait. Je vais essayer de vous donner quelques éléments pour réfléchir, et vous réagirez après. Le but, c'est qu'on ait aussi un petit échange pour que vous me partagiez vos expériences, et éventuellement, s'il y a des questions de compréhension, de choses qui ne sont pas claires, que vous puissiez revenir dessus aussi. Et donc, je suis dans un processus dynamique. Et donc, mon amour est dans un processus dynamique. Et donc, il faut constamment réactualiser le choix qu'on a fait il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Et ça, avec la meilleure volonté du monde, ce n'est pas forcément évident. Et puis, encore une fois, le dernier élément, le plus important au point de vue chrétien, Dieu permet la différence radicale entre hommes et femmes, justement pour que vous engagiez un chemin commun. Si je le dis très rapidement, là, en tant que chrétien, la raison pour laquelle Dieu vous a fait si différent, c'est pour que votre éternité ait la couleur du cœur de votre conjoint. Je peux la refaire, hein. En Philippe, c'est en couleur, justement. La raison pour laquelle Dieu vous a fait si différent, c'est pour que votre éternité, votre lien avec Dieu, votre amour pour Dieu dans l'éternité, ait la couleur du cœur de votre conjoint. C'est-à-dire que Dieu veut que ce que vous êtes l'un pour l'autre aujourd'hui ait un poids d'éternité. Un poids d'éternité, ce n'est pas un poids qui écrase, et c'est un poids qui rend heureux. Mais ça vous donne une responsabilité incroyable sur ce que vous êtes appelé à vivre dans l'éternité. Et donc toutes ces différences, tous ces ajustements mutuels, toutes ces difficultés qui vont devenir une leçon de vie, elles ont pour but de vous agrandir pour devenir un peu plus à l'image de l'amour de Dieu, et que ce un peu plus, il est la couleur, et dans l'éternité, ça sera un jeu de sept familles, vous voyez, où on aura colorié par la prière et la charité le cœur de tous ceux qui nous auront entourés. Et donc, on fera des familles par couleur. Donc, la couleur de mon cœur, elle aura rayonné autour de moi sur tous ceux que j'aurais aimés. Et bien, la première personne dont vous aurez colorié le cœur dans l'éternité, ça sera votre conjoint. Et pardon de vous le dire, même si je ne connais pas la plupart d'entre vous, comptant les oncles, les tantes, ceux que j'ai mariés, les cousins, il y en a quand même quelques-uns, et les frères, mais Dieu aurait fait bien mieux que vous s'il n'avait pas eu besoin de vous. Pour vous donner son amour, qui est infini, il n'avait pas besoin de passer par le cœur fini de votre conjoint. Et le pire du pire, c'est par rapport à vos enfants. Quand vous voyez les éducateurs imparfaits que vous êtes, ce n'est pas un reproche que je vous fais, hein, je me mets dans le lot. Parce que je récupère vos enfants à des âges différents, de temps en temps dans des camps, où, un peu tout et n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais plutôt tout. Voilà. Et bien, je vois vos enfants qui sont géniaux parce que ce sont des enfants de Dieu et qu'ils ont été aimés, mais qui sont remplis des bugs que vous leur avez transmis. Et donc Dieu aurait bien mieux éduqué ses enfants de Dieu sans vous, mais il a choisi de passer par vous. Moi, comme dit Dieu dans le Porche du Mystère, la deuxième vertu de Peggy, ça dit Dieu, ça m'étonne, quand Dieu parle de l'espérance. Quand Dieu parle de la foi dit Dieu, ça ne m'étonne pas, c'est moi qui l'ai inventé. La charité dit Dieu, ça ne m'étonne pas parce que c'est moi-même. Mais l'espérance, écrit Peggy, dit Dieu, de voir l'homme qui se couche tous les soirs en croyant que ça va aller mieux demain, ça, dit Dieu, ça m'étonne vraiment. Il faut vraiment que je sois tout puissant dans ma création pour que l'homme puisse vivre d'espérance. Eh bien, moi, quand je vous vois éduquer vos enfants et vos petits-enfants avec cette espérance que ça va aller mieux demain, eh bien, je suis admiratif de votre vocation et de votre courage. Alors, deuxième petit point, les dangers du couple au quotidien à l'âge de la maturité. Alors, vous voyez, l'amour qui repose sur des éléments inconscients dont vous n'avez pas conscience quand vous vous mariez et qui va grandir petit à petit, cas à cas, un peu comme un accordéon, des fois plus loin l'un de l'autre, des fois plus proche, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il réussisse tout seul. Vous voyez bien où on va, quoi. Eh bien, si je vous disais, si je prenais une métaphore un peu provocatrice, volontairement provocatrice, je vous dirais, en utilisant une métaphore de l'économie, dans ma vie antérieure, j'ai fait un peu d'économie, mais ça remonte à tellement loin que j'ai tout oublié, sauf les termes. Eh bien, votre amour au long de cette vie de couple qui commence le jour où vous mariez, eh bien, il s'est appuyé un peu sur une croissance externe pour avancer. Il s'est appuyé sur... les premiers boulots, le choix de l'appartement, la famille qui s'agrandit, l'éducation des enfants. Et vous suivez le mouvement bravement en pensant que la vie continue son petit chemin toute seule. Eh bien, ça marche que pendant un temps, ça. Quand la croissance externe, elle est un peu finie, du style, voilà, la taille de la famille a atteint à peu près sa taille critique. Je connais une famille qui a 15 enfants. Ben voilà, ils se disent, on va peut-être arrêter là, quand même. On pourrait en avoir encore deux ou trois, mais après, ça va poser des problèmes de logistique insurmontables. Il va passer le permis de bus, etc. Bon, on va peut-être s'arrêter à 15. Et bien, à ce moment-là, la difficulté, c'est que votre amour, il n'a grandi que par des circonstances extérieures. Que, je suis un petit peu provocateur, bien sûr, vous avez appris à vous aimer, à vous écouter, etc. Mais le levier principal de la croissance de l'amour, on va le revoir dans le point suivant, qui est la croissance interne, peut-être qu'il n'a pas été suffisamment... dynamisé, pris en compte de manière dynamique. Alors, vous vous retrouvez, quand je dis vous, c'est aussi dans la vie religieuse, hein, nous nous retrouvons à l'heure de la maturité devant des dangers. Alors j'en ai pris trois, un peu pour faire une petite typologie, mais il y en aurait plein d'autres, et j'imagine que vous aurez plein d'autres choses à rajouter. Le premier que j'ai pris, c'est l'usure de l'amour. Le deuxième, c'est la déception dans l'amour. Et puis le troisième élément, moi j'ai 47 ans, donc j'accompagne aussi des couples qui ont un peu mon âge. Ben, je vois que quand on a eu du mal à construire vraiment, j'allais dire, dans la croissance interne dont on va reparler, un vrai amour, eh ben, on peut vivre l'un avec l'autre. Donc j'ai appelé ça « vivre dans l'indifférence ». Alors je dis un petit mot sur chacun des éléments. L'heure finale, c'est quoi ? Ah. Non, mais c'est juste pour que je...
Une demi-heure.
Une demi-heure. Ok. L'usure dans l'amour. Il y a ce paradoxe à l'âge de la maturité. C'est qu'à la fois, vos qualités ont déteint sur l'autre. Ça, c'est amusant de voir ça dans les couples qu'on côtoie comme prêtre pendant des années. Vos qualités, elles déteignent sur l'autre, mais les défauts aussi. Et donc, d'une certaine manière, vous avez un peu mélangé vos personnalités en vous rapprochant, et en même temps, vous êtes devenu plus vous-même, donc vous êtes aussi devenu plus différent. Et donc, il y a ce paradoxe qui fait que, à la fois, il y a des choses que vous connaissez très bien de l'autre, et puis à la fois, eh ben, des choses qui vous échappent complètement, et où vous pouvez vous retrouver beaucoup plus loin que ce que vous croyez. Une petite difficulté de la jeunesse, où vous disiez, oh, ben, on passera par-dessus ça, etc., eh ben, ça devient un énorme problème à l'âge adulte du couple. Karol Wojtyla, dans son ouvrage « Personne et acte », il appelle cette osmose entre vous deux, mais aussi entre toute amitié, il appelle ça la participation. Je participe du cœur de l'autre, je ne suis pas extérieur à l'autre. Ce qui touche l'autre en bien me touche, ce qui fait souffrir l'autre me fait souffrir. Vous devenez solidaire, pas simplement sur des choses extérieures, financières, fiscales, de responsabilité éducative sur vos enfants, vous devenez aussi solidaire de l'intérieur à l'égard de votre conjoint. Et donc ça vous rapproche, et c'est ce qui fait que vous mettez en commun les éléments. Et puis ce qui fait que vous éloignez apparemment, c'est ce que les philosophes contemporains vont appeler la question de la personnalité. Votre personnalité, vous n'avez peut-être pas... vos parents vous ont toujours dit que vous étiez nul en musique, donc vous n'avez jamais osé souffler dans une flûte à bec. Et puis, quand tous vos enfants ont grandi, ont quitté la maison, vous mettez la flûte à bec et vous découvrez un talent de virtuose. Eh bien, il y a des éléments de votre personnalité qui vont grandir à l'âge de la maturité, qui étaient incoativement présents quand vous aviez 25 ans ou 30 ans, mais qui prennent toute leur taille. Votre personnalité, elle est plus épanouie à 30 ans qu'à 20 ans, à 40 ans qu'à 30 ans, à 60 ans, même si les forces diminuent, parce que l'intelligence est devenue plus éveillée, j'ai fait ce qui me plaisait, j'ai essayé de développer mes compétences professionnelles, j'ai fait des projets, j'ai fait des choix de vie qui m'ont construit de telle ou telle manière. Et alors, ce qui se passe, c'est que dans ce devenir de l'amour, l'amour a évolué, vous avez évolué, mais peut-être que les moyens par lesquels vous vous dites votre amour n'évoluent pas à la même vitesse. Quand on avait 20 ans, on aimait bien faire du vélo ensemble. Et puis, après un accident de voiture ou après une arthrose qui commence, ben on va faire moins de vélo. Donc, on peut faire du tricycle, on peut faire, de la trottinette, ça va faire mal aux genoux, enfin, on peut trouver un autre sport. Mais on est habitué quand même à fonctionner sur ce qu'on connaît déjà. Et donc, être inventif d'une manière nouvelle dans l'amour, et c'est ça la difficulté, ouais, être inventif dans les projets professionnels, on est quelquefois obligé, ou quand la famille s'agrandit, ben, il n'y a plus assez de pièces pour loger tous les enfants, il faut bien acheter la mezzanine du dessus, ou l'appartement d'en dessous, ou déménager. Ça, ça va encore. Mais être inventif dans les moyens de l'amour, on a plutôt tendance à rester fixé sur ce qu'on connaît déjà. Et c'est là où le bât blesse, parce que si vous vivez à 40 ans avec la manière de vous dire que vous aimez quand vous aviez 20 ans, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher de la même manière. Et c'est ça qui va petit à petit gripper l'amour dans un couple, un des éléments, pas le seul, c'est quand on n'est pas suffisamment attentif à se dire à chaque âge de la vie qu'on s'aime avec les moyens qui sont adaptés à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui voit sa cousine fiancée, qui dit « Quand je vois comment ma cousine est inventive pour dire à son fiancé qu'elle l'aime, Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Eh bien, moi je vois que je ne suis pas aussi inventive pour dire à Jésus mon amour. » Bon, quand elle dit ça, elle a 18 ans ou 17 ans. Quand on a 50 ans, c'est pas évident de dire à son conjoint d'une manière inventive qu'on l'aime. On est devenu un peu pato. Comme dans la vie religieuse, vous voyez, quand on est des vieux prêtres ou des frères de Saint-Jean qui avons 25 ans, 30 ans, 40 ans de vie commune et qu'on se retrouve autour d'une table, ben, c'est pas évident de se dire qu'on s'aime. On est un peu pato, comme vous, quoi. Pas mieux que vous, pas pire que vous, juste comme vous. Comme nous tous pareils. Parce qu'on n'arrive pas à inventer de manière nouvelle un langage de l'amour qui soit adapté au cœur de la personne et pas simplement à l'historique et à ce que je connaissais qui lui faisait plaisir, quoi. Si un mari a offert des fleurs à sa femme pendant 40 ans de suite très régulièrement, peut-être qu'elle va s'en lasser au bout d'un moment. Peut-être pas. Mais il y a peut-être aussi d'autres manières de lui dire. Il peut lui acheter autre chose. Il peut l'emmener au restaurant. Il peut lui offrir un week-end en amoureux, etc. Donc l'amour s'use. Et après, ça peut être plus facile de dire à quelqu'un de l'extérieur qu'on l'aime plutôt que à celui ou celle qu'on a choisi. Deuxième danger, la déception dans l'amour. Un autre danger qui guette l'amour, la déception. Alors, on pourrait dire il y a trois niveaux de déception. On peut être déçu par plein de choses. On peut avoir une déception très consciente que l'autre n'est pas seulement ses qualités qui m'ont attiré, mais qu'il est aussi constitué de ses défauts. Après 20 ans de mariage, le fait que la fille que j'ai épousée ne sait pas cuisiner, eh ben, ça me prend à la gorge. Je me disais, ce ne sera pas grave, etc. Mais elle fait toujours des nouilles et du jambon toute la semaine. Eh ben, j'en peux plus. Et ce qui en soi n'était pas un problème quand on était étudiant et qu'on partait en week-end, peut devenir 25 ans après. D'abord, les nouilles et le jambon, ça fait grossir. Et ensuite, ce n'est pas très varié, quoi. Donc ça, c'est une déception très consciente. Je vois chez toi, au bout d'un moment, beaucoup mieux tout ce qui ne va pas. Et dans la vie religieuse, on est des as pour ça. Parce que vous voyez, nous, on n'a pas qu'un seul sujet d'observation qui est le conjoint. On a tous les frères de notre prieuré, quoi. Donc on peut à chaque fois exercer sa sagacité en se disant, mais ce frère-là, vraiment là, il est complètement à côté de ses pompes. Donc là, on peut être déçu par l'autre. L'autre n'est pas ce que j'attends de lui. Je le prends en plein défaut. Je me rappelle du noviciat, un frère me racontant, vous voyez, qu'il était allé manger du yaourt dans la chambre froide à Saint-Jaudard. Donc la chambre froide, c'est une chambre froide industrielle qui fait quelques mètres carrés.
Et puis il était sur le haut de la chambre froide en train de prendre un morceau de gâteau au chocolat quand le père maître des novices est arrivé dans la chambre froide. Et alors le pauvre frère, tétanisé, est descendu son escabeau et comme on nous livrait à ce moment-là du lait dans une espèce de grande jarre immense, son scapulaire, vous voyez, est descendu dans la jarre de lait jusqu'à ses hauteurs-là. Et là après, il secouait son scapulaire quand le père maître lui demandait « qu'est-ce que tu fais dans la chambre froide ?» Donc il y avait une preuve qu'il était bien dans la chambre froide, il ne pouvait pas dire « je me promenais, il y avait de la lumière, j'ai voulu l'éteindre, etc. » Voilà, ben, le père maître était très déçu du novice qui, n'ayant pas eu sa ration pendant le carême, allait se servir dans la chambre froide. Donc ça, on est très conscient des défauts de l'autre. Alors ça, on les voit, mais extraordinairement bien. Il y a une déception un peu moins consciente qui vient après, quand on a accumulé tous les défauts de l'autre, ou un certain nombre d'éléments. C'est que l'autre ne peut pas combler toutes mes attentes. Moi, je me souviens d'un couple que j'ai marié, qui m'a dit, 2 jours après le mariage, juste avant de partir en voyage de noces, ben nous, on se rend compte qu'en fait, on ne va pas pouvoir se combler l'un l'autre. Alors je me suis dit, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Ben, j'aurais dit que c'était plutôt une bonne nouvelle. Découvrir que ce que tu attends, ce que tu attends dans l'amour, je ne pourrai jamais le combler. Parce que le cœur que tu as reçu, là je reparle de nouveau en tant que chrétien, le cœur que tu as reçu, le dessin du cœur, il ne faut pas le faire comme ça, il faut le faire comme ça. Le cœur, il est créé avec une capacité de recevoir par le haut, comme un immense entonnoir. Parce que mon cœur, il vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé mon cœur. Et donc, c'est le seul qui va pouvoir le combler. Si j'essaye d'aimer à ma mesure, à la mesure de mon petit cœur, je n'arriverai jamais à combler les attentes de l'autre. Parce que l'autre, il attend plus que moi. Il attend que Dieu lui donne ce qui va le combler pour l'éternité. Et ça, je ne suis pas capable de lui donner. Et donc, au long des années, eh bien, on va voir qu'on n'arrive pas à répondre aux attentes de l'autre. Et donc ça, c'est déjà un peu moins conscient, mais c'est plus profond et c'est plus dérangeant. Parce que je me suis trompé si je n'arrive pas à le rendre heureux ou à la rendre heureuse. Et puis le troisième niveau de déception, c'est une déception qui est souvent inconsciente, qui me regarde moi, c'est de découvrir que justement, ce n'est pas simplement l'autre qui n'est pas en mesure de me combler, c'est que je ne suis pas vraiment en capacité de te rendre pleinement heureux ou de te rendre pleinement heureuse. Malgré tout ce qu'on fait ensemble, malgré les années de vie commune, malgré toute la tendresse, l'intimité, les enfants, les choix de vie, les projets un peu fous qu'on a faits, les audaces qu'on a eues, eh bien, je n'arrive pas à te donner ce que tu attends. Mais vous voyez, la prise de conscience sur soi, c'est toujours la plus difficile. On commence par ce qui est pseudo-objectif, pour finir par ce qui est vraiment subjectif, mais ça demande un chemin. Donc voilà les lieux de déception. Et si on les rassemble toutes les trois, ben c'est découvrir qu'à la fois l'autre et moi-même, nous sommes limités. Et j'ai envie de dire, la reconnaissance des défauts de l'autre va toujours plus vite que l'acceptation humble de ses propres défauts. Parce que découvrir ses propres défauts, ça ne demande pas simplement de faire un travail de connaissance, ça demande de faire un travail d'acceptation de soi. Et ça, c'est plus coûteux de s'accepter dans ses limites que de regarder, soi-disant objectivement, ce qui ne va pas dans le cœur de l'autre. Ça demande une vraie humilité, un vrai retour sur soi, une vraie mise en posture basse, j'allais dire, pour voir ce que la vie me montre de mon histoire personnelle. Et pas simplement mettre mes échecs sur le compte des autres, du chef qui, de la vie que, de la conjoncture, des personnes que j'ai rencontrées. J'ai aussi ma responsabilité dans les échecs ou dans les manques de réussite, si ce n'est pas des échecs patents. Je n'ai pas réussi tout ce que j'aurais voulu faire. Et donc, vous voyez, cette cause naturelle de la déception, c'est que l'autre n'est qu'une créature. Et donc, il est limité dans son corps ou elle, dans son intelligence, dans sa manière de réagir. Et puis, la grosse difficulté dans le couple, c'est que vous ne connaissez l'autre, même si vous connaissez bien, vous ne vous connaissez que de l'extérieur. Vous n'êtes pas dans le cœur de l'autre. Vous avez beau essayer de dire à l'autre ce que vous portez dans votre cœur, il y a des choses que vous ne saurez pas dire. Parce que vous n'aurez pas les mots pour ça. Moi, aujourd'hui, je le dis, j'ai eu la grâce d'enterrer mes deux parents comme prêtre. Donc, c'est une expérience qui est assez particulière, à un âge relativement jeune, d'enterrer ses deux parents, de les accompagner dans leur maladie et de les enterrer. Et bien, quand on se trouve en face du cercueil de son père, le jour de l'enterrement ou de sa mère, ce qu'on avait préparé pour tous les autres enterrements, croyez à la résurrection, Jésus vous aime, vous allez voir, ça va aller mieux demain, etc. C'est pas hyper facile de dire ça à ses frères et sœurs, à ses cousins, aux amis des parents, etc., devant le cercueil de ses parents. Donc, quand on se retrouve en face d'une expérience nouvelle qui est par exemple la mort, et la mort d'êtres chers, et qui ne sont pas forcément que ses parents, moi j'ai pas de conjoint ni d'enfant, donc j'imagine ce que peut être pour vous la mort d'un être encore plus cher, j'allais dire, que ceux qui ont donné la vie, qui peut être le conjoint ou les enfants, eh bien, on est démunis, quoi. Eh bien, je ne sais pas quelles vont être les réactions de mon conjoint en face de cette situation limite. De la même manière que positivement, quand je me suis marié, je ne savais pas comment mon futur mari ou ma future épouse allait être père ou mère. Je ne t'ai pas vu dans ta posture de mère ou de père quand je t'ai épousé. Donc il faut que je me laisse surprendre par toi. Et quand on va se lancer dans l'aventure conjugale, je ne sais pas ce que ton cœur de père va devenir ou ce que ton cœur de mère... Si ton père est mort quand tu avais 3 ans, ben quel père vas-tu être, toi qui n'as pas eu l'image d'un père ? Il faut que je fasse confiance à la vie. Mais je ne sais pas ça. Et du côté la pauvreté, eh bien, quand tu vas te trouver dans une vraie situation limite, comment vas-tu réagir ? J'en sais rien. Accepter que ça fasse aussi partie de ce que je suis, de ce que tu es et de ce qu'on va devoir porter ensemble, sans simplement le subir. On va voir pourquoi et comment. Et puis le troisième danger, vivre dans l'indifférence. J'ai envie de dire, vivre dans l'indifférence, c'est d'avoir cessé de chercher à rencontrer le désir de l'autre. J'ai plus envie de savoir ce qui est important pour toi. J'ai déjà tellement essayé. Moi, j'accompagne des couples que j'ai mariés, qui sont en train de divorcer, donc que j'ai mariés il y a 20 ans, 25 ans, et qui me disent, j'ai tout essayé, on a tout essayé. Chacun des deux dit qu'il a tout essayé, et ça ne marche pas, je suis découragé. Pour l'instant, on vit chacun dans son coin, pas encore sous le même toit, mais ça ne peut plus durer. Quand j'entends ça, moi, je repense à la Genèse, à Genèse 2, 21, Dieu plongea l'homme dans un sommeil profond. Et le terme hébreu dit presque une extase. Et pour que Dieu forme la femme qu'il va donner à l'homme, il faut que l'homme s'abandonne à quelque chose qu'il n'a pas prévu. Il ne sait pas ce que Dieu va faire. Il faut qu'il s'abandonne, symboliquement, mais réellement, dans la main de Dieu pour que Dieu lui donne une aide qui lui soit assortie. Et donc, il faut que l'homme masculin accepte de se laisser surprendre par ce que Dieu va faire. Et bien ça, c'est une belle métaphore, et c'est plus qu'une métaphore, c'est un élément constitutif d'un amour qui ne veut pas vivre dans l'indifférence. Dans une communauté religieuse, c'est hyper facile de vivre comme ça. Le désavantage qu'on a par rapport à vous, ça peut être un avantage dans d'autres situations, mais le désavantage sur ce lieu-là, c'est que nous, on ne s'est pas choisis mutuellement. Moi, quand j'étais au noviciat, le père maître des novices m'a donné la liste des 70 frères de mon couvent en me disant, pour la semaine prochaine, tu me dis lequel de tous ces frères t'aurais choisi comme un ami dans le monde. Je ne lui ai même pas ramené la liste, je lui ai dit zéro. Parce que j'ai checké la liste un par un. J'aurais choisi aucun de ces types-là comme un de mes copains dans le monde. Et j'étais dégoûté la semaine d'après quand je l'ai vu. Je lui ai dit, voilà, ça veut dire que je ne suis pas à ma place. Et alors je sanglotais comme un idiot, et il rigolait comme un idiot. Et il m'a dit, non, justement, ces 70 frères que tu n'aurais pas choisis, le Seigneur te les donne pour qu'ils agrandissent ton cœur à quelque chose que tu n'aurais jamais découvert tout seul. Vous voyez le lieu d'espérance, j'ai mis un petit moment avant de découvrir que c'était une bonne nouvelle. Eh bien, si j'accepte pas, vous voyez, de me blaser et de vivre avec mon petit cercle de copains, vous voyez, comme prêtre, c'est hyper délogeant d'être prêtre. Moi, quand je suis arrivé en Autriche, j'étais jeune prêtre, j'avais 6 mois de sacerdoce. Le premier couple que j'ai marié, c'était un prince allemand avec une princesse autrichienne. C'était le mariage de rêve dans le château avec les oriflammes, les chevaux, le diadème, le truc extraordinaire. Deuxième mariage que j'ai célébré, c'était le boucher du village dans lequel on était, avec la bouchère, ils avaient déjà 2 enfants. Puis je m'étais dit, on va faire un groupe de travail entre le premier couple et le deuxième couple juste après le mariage pour qu'ils puissent se retrouver. Et je lui ai dit, non, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'en fait, ils vont rien avoir à se dire. Et je me suis dit, le bon Dieu, lui, ça ne le gêne pas. Le bon Dieu, il parle le même langage au prince allemand, à la princesse autrichienne, et puis au boucher du village. Parce que Dieu, il donne son sacrement sans tenir compte du rang social, du niveau intellectuel, etc. Parce qu'un couple qui cherche Dieu, Dieu va toujours se donner. Eh bien, Dieu n'est pas indifférent à ce que nous sommes. Et nous sommes invités, et c'est ça un challenge pour la vie du couple, à ne jamais choisir d'être indifférent quand la souffrance est trop grande, quand on a tout essayé et qu'on en a marre. Et dans un couvent, constamment redécouvrir des frères nouveaux. Chaque année, le prieuré change un peu de visage, il y a des frères nouveaux qui arrivent. Et bien, ça nous demande de nous remettre en route pour se dire, ce frère-là qui débarque, il est coréen. Cette année, on avait un frère coréen qui parle hyper mal le français. Et bien, ça demande d'être drôlement attentif. Il faut le faire répéter, ça l'énerve, ça nous énerve. Il faut lui laisser son temps de parole, parce que sinon, dans une discussion, c'est tout le monde qui parle et le pauvre frère coréen qui arrive à faire une phrase toutes les demi-heures, et ben, il a le bec cloué. Et dans un couple, ça peut être comme ça aussi. Je vous fais pas de dessin. Et ça marche des deux côtés. Il n'y a pas que les femmes qui parlent beaucoup. J'en suis un exemple vivant, malheureusement. Alors, vivre dans l'indifférence à l'égard de l'autre, c'est avoir abdiqué le désir de continuer à grandir, le désir de se laisser changer par le cœur de l'autre, par amour pour lui ou pour elle, et de ne désirer plus que vivre à sa propre mesure, qui est celle d'un cœur isolé, qui devient petit à petit incapable d'aimer un autre que soi. Accepter de ne jamais devenir indifférent au conjoint, c'est accepter un amour qui va toujours me faire grandir. Et ça peut être héroïque. Et je vous passe toutes les situations compliquées, parce que vous les connaissez sûrement de près ou de loin. Alors, pour le dire autrement, vous voyez, à la fin de ce deuxième point, pour aller plus loin que les dangers du couple au quotidien, l'amour est quelque chose d'incroyablement vivant, de triplement vivant, parce que vous, messieurs, votre cœur est vivant tout au long d'une vie, mesdames aussi, et votre amour, il l'est aussi. Et donc, la seule possibilité que cet amour reste un véritable amour, c'est qu'il vous demande un engagement de plus en plus grand. J'ai déjà discuté avec des couples qui me disaient « Nous, on est un peu en situation limite ». Jusqu'où doit aller le désir de continuer à avancer juste avec l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une limite? Et alors je leur ai dit, du côté de l'amour, il n'y a jamais de limite. Du côté des blessures, bien sûr, il y a un moment où on n'en peut plus, puis s'il y a une violence, il peut y avoir des violences plus que verbales, et bien là, il faut être prudent aussi. Mais du côté de l'amour, si je veux aimer, je n'ai pas d'autre choix que de continuer à grandir tout le temps dans l'amour. Et ça demande un engagement que le magistère depuis Gaudium et Spes appelle le don désintéressé de soi. Comme c'est difficile le don désintéressé de soi, même comme prêtre. Et comme prêtre, on fait des conférences, on fait des apostolats, on fait du parapente même, on m'a demandé de faire du parapente avec des jeunes pros. Ben, quand on est le curé qui fait du parapente, on est la star. Parce que tous les gens dans les bars disent « Ah, vous êtes curé, pourquoi vous venez faire du parapente ?» Donc tout le monde s'intéresse à moi. Puis quand je rentre dans mon couvent, ben, moi je m'occupe des poubelles dans mon couvent. Ouais, donc celui qui s'occupe des poubelles, c'est pas la star. On peut avoir une aura dans son métier, dans sa vie sociale, mais quand on est l'un en face de l'autre, eh bien on est comme des pauvres. Et qu'on soit marié, qu'on soit religieux. Je me souviens du cardinal Schönborn, puisque j'étais longtemps dans le diocèse du cardinal Schönborn. Le cardinal Schönborn racontait que quand il était devenu cardinal, il était allé voir sa maman qui vivait en Autriche. Et il commençait à lui expliquer ce que c'était que le diocèse de Vienne et tout ce qu'il allait faire de grand. Et sa mère lui dit, mon chéri, tu pourrais pas aller me chercher mes aiguilles à tricoter au premier étage. Et le cardinal Schönborn disait, moi qui étais le nouveau cardinal archevêque de Vienne, eh bien il fallait que j'aille chercher les aiguilles à tricoter de ma mère au premier étage. Bah, même le cardinal Schönborn, même un cardinal, s'occupe de sa maman en allant lui chercher ses aiguilles à tricoter. Alors vous voyez, on entre dans quelque chose qui nous invite à aller plus loin, et donc c'est ce troisième point, le cœur de ce que je voulais vous dire ce soir, se pardonner mutuellement de n'être que ce qu'on est. Alors ça va être le passage à la croissance interne, vous voyez. Après que les éléments de la vie extérieure vous aient aidé à continuer à avancer, à construire votre couple, votre famille, à être attentif aux autres, etc., une fois que tout ça c'est à peu près en place, que votre métier il est à peu près stable, que la taille de la famille elle est stable, que l'appartement ou la maison vous y êtes de manière à peu près stable, eh bien, quand les enfants commencent à quitter la maison, il faut se poser d'autres questions. Dans ma jeunesse dorée, quand je faisais des études de gestion, j'ai fait un stage 3 mois comme steward sur Air France, et j'avais rencontré une fois un commandant de bord qui était juste à la retraite et qui ne pouvait pas supporter d'être chez lui à la maison en face de sa femme. Il se faisait par informatique des faux plans de vol pour lui dire où il allait pour ne pas être chez lui tout le temps. Alors il n'avait pas une double vie, mais il avait besoin de prendre l'air, de continuer à prendre l'air comme il avait fait dans sa vie professionnelle. Parce que se dire, je vais me retrouver entre 4 yeux avec une femme qui a forci, vieilli et qui a mauvais caractère, c'était pareil dans l'autre sens, mais il ne le voyait pas, eh bien, c'était difficile à accepter. Alors, il y a des fausses stratégies, vous voyez, quand il faut accepter de découvrir un peu plus en profondeur qui on est. Alors, très rapidement, la première stratégie la plus idiote, c'est aller voir ailleurs pour ne pas regarder sa nudité en face, et sa nudité spirituelle. Le nombre de frères de Saint-Jean, et de dominicains, et de jésuites, et de curés de paroisse, moi, tous les curés de paroisse qui ont mon âge, que je connais, tu sais, moi, je suis dans une crise existentielle, je me pose la question de rentrer au monastère. Et moi, tous les frères de Saint-Jean que je vois, ils me disent, moi, la question existentielle que je me pose, c'est de devenir curé de paroisse, parce que vraiment, la vie religieuse, ça me saoule, quoi. C'est plus facile de changer de vie, apparemment, que de se poser les vraies questions qui vont me remettre en cause. Parce qu'encore une fois, se remettre en cause, ça demande un travail en profondeur. De ne pas mettre les problèmes d'abord sur le dos de l'autre, mais de se dire que je suis responsable de ma vie. Moi, ce qui m'a tué pendant une semaine quand j'ai lu ça dans mes études de théologie morale, c'est quand saint Thomas d'Aquin fait son traité sur le péché et qui dit « Quelle est la cause du péché ?» Eh bien, la réponse qui m'a empêché de dormir pendant une semaine, c'est « La cause du péché, c'est pas le démon, c'est la volonté de l'homme. C'est moi qui pêche. Le démon, il me tente. Il me pousse dans mes retranchements. Relisez La tactique du diable de C.S. Lewis, c'est absolument effrayant. De voir comment le démon va vous faire perdre de pied petit à petit sur des choses qui sont importantes pour vous. Mais celui qui pose l'acte pécamineux, c'est l'homme, dans sa volonté. Je suis responsable de mes actes pécamineux. Bien sûr, de mes actes bons d'abord, mais dans les lieux de fragilité, je suis responsable de mes actes pécamineux. Et donc, aller voir ailleurs en changeant de vie, en séparant, etc., pour croire que ça va aller mieux, si je n'ai pas fait le travail sur moi, ça ne va rien changer. Moi, je vous raconte une histoire vraie d'un couple que j'ai... Une histoire, je vous passe les détails du début parce que c'est abracadabrant et puis je ne voudrais pas trahir de secret, mais voilà, une situation conjugale dans une famille complètement délirante, une jeune femme hyper blessée par l'histoire de famille qui a vécu une relation homosexuelle pendant plusieurs années et puis qui a refait tout un chemin de conversion, qui a épousé un type qui était divorcé, ils sont mariés civilement et puis ils ont fait la démarche, lui il a fait la démarche de reconnaissance en nullité de son premier mariage qu'il a obtenu, donc première instance il l'a obtenu, deuxième instance... Il n'a pas reçu la lettre qui lui donnait la réponse, qui finalement s'avérait être positive, donc son premier mariage a pu être reconnu nul, donc j'ai pu célébrer leur mariage religieux. L'official du diocèse l'a convoqué et lui a dit « Je voudrais vous voir pour vous donner de vive voix la deuxième réponse de la deuxième instance pour votre requête en nullité de mariage. » Et ce prêtre l'a convoqué et l'a reçu en disant « Cher monsieur, je vous annonce la nouvelle, en deuxième instance, votre mariage est annulé et reconnu comme nul. » Donc il n'y a pas eu de premier mariage, donc la femme avec laquelle vous vivez aujourd'hui, vous pouvez l'épouser à l'église, pas de problème. Mais j'ai une question à vous poser. Et c'est le marié qui me l'a raconté un soir où j'étais dîner chez eux pour préparer leur mariage. Et il m'a dit, la question qu'il m'a posée, c'est quel travail vous avez fait sur vous depuis l'échec de ce premier mariage pour que ça ne se reproduise pas dans le deuxième ? Il m'a dit, j'en ai pleuré dans son bureau de cette question qui me dérangeait profondément, mais 3 mois après... Je l'ai remercié parce que je me suis rendu compte que c'était une question que je n'avais pas voulu me poser et qu'elle était nécessaire pour comprendre aussi ma part de responsabilité dans ce qui s'était passé dans ce premier mariage qui avait été vécu humainement, qui était un mariage naturel, si on veut, où il y avait eu un enfant, mais où il n'y avait pas eu pas d'engagement pour des raisons personnelles compliquées et qui faisait qu'aujourd'hui, son mariage pouvait être reconnu nul. Et voilà. J'ai besoin, dans mon chemin... de maturité, de découvrir aussi ma part de responsabilité dans ce que je suis et dans ce que je ne suis pas capable de te donner dans le couple et dans les difficultés de notre couple. Moi, quand je vois un couple qui ne va pas bien, et que j'en ai encore vu il n'y a pas longtemps, un couple de 7 ans de mariage qui habite juste à côté de chez nous, et ils ont 2 petits-enfants absolument adorables de 3 ans et 5 ans, et ils sont en train de divorcer, enfin, ils étaient en train de divorcer, et quand j'ai vu la première fois une sortie de messe, ils m'ont dit « c'est l'autre qui, etc. » J'aurais dit « écoutez, pour moi, le ratio, il est facile, quand il y a un problème dans un couple, c'est 100% de responsabilité de chaque côté. Il n'y a pas de curseur. 70-30, 40-60, 50-50. Un couple qui ne va pas bien, ce n'est pas un qui ne va pas bien, c'est un couple qui ne va pas bien. Et un couple qui ne va pas bien, c'est 2 personnes qui ne vont pas bien, où chacune ne va pas bien, et chacune a sa part de responsabilité dans ce qui ne va pas bien. » Donc, ne cherchons pas d'abord à croire que l'herbe sera plus verte ailleurs, parce que après quelques années, les problèmes reviendront exactement pareil. Deuxième fausse stratégie, mettre l'usure sur le compte de l'autre en trouvant des fausses excuses. J'ai envie de le formuler comme ça. Il est plus facile de trouver de fausses raisons objectives à la difficulté de notre amour que de trouver des vraies raisons subjectives. On va chercher des fausses raisons objectives. T'as jamais le temps, tu rentres à 23h le soir, tu prends un phagocyte les enfants, j'arrive même pas à avoir mon lien de père avec mes enfants, c'est toi qui fais tout, je peux rien faire, etc. Ça, c'est des raisons faussement objectives. Mais la vraie question par derrière, quand c'est difficile ou qu'il y a des lieux d'incompréhension profond, c'est en vous qu'il faut la trouver. En vous, et c'est pas dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans votre cœur, dans votre manière de fonctionner, dans votre manière de parler, dans votre manière d'écouter. Et ça, c'est beaucoup plus exigeant d'entrer dans ce travail-là. Il ne me comprend jamais, elle ne m'aime pas vraiment, il n'a jamais de temps pour moi, elle ne sait pas me donner la tendresse dont j'ai besoin, etc. Là, on devient les as de la généralisation et tout est mis dans le cocon des difficultés et on n'arrive plus à voir qu'il y a aussi toute cette histoire belle entre nous dont il faudrait tenir compte. Et alors, la raison de ça, vous voyez que quand ça ne va pas, on voit de plus en plus ce qui ne va pas et qu'on ne voit pas ce qui va bien. Ben là, il faut un outil philosophique que je vous donne, qui est très précieux, qui est plus simple. C'est de dire que vous êtes fait pour le bonheur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, le bonheur pour votre cœur, pour notre cœur, il devrait être naturel. Donc, quand tout va bien, votre cœur est silencieux parce qu'il est heureux, il est à sa place. Et quand ça ne va pas, vous voyez ce qu'on appelle la mauvaise conscience. Pourquoi la mauvaise conscience, elle parle plus fort que la bonne conscience ? Levez la main, ceux qui peuvent dire en vérité, en face de soi, mais en face de Dieu, « Je m'aime d'un amour profond. » Peut-être qu'il y en a tous besoin d'appareils auditifs, mais ce n'est pas la première fois que je vois ça. Et je me mets dans l'eau avec vous. C'est difficile de dire qu'on s'aime vraiment. On s'aime au sens de réciprocité, enfin, du verbe « aimer », réflexif. On a du mal à s'aimer soi-même. Parce qu'on a du mal à se regarder du côté positif. Parce que le côté positif, il est silencieux en nous. Quand ce que je fais est dans les clous, il n'y a pas ma petite voix intérieure qui est « Yeah !» Là, c'était trop bon. Là, ouais, béni soit Dieu pour ce que tu viens de faire, pour la grand-mère que tu as aidé à traverser, pour les limitations de vitesse que tu as respectées en allant à la conférence. Aujourd'hui, j'ai respecté toutes les limitations de vitesse parce que ce n'est pas moi qui conduisais, etc., etc. Non. Alors que quand ça ne va pas, vous avez votre mauvaise conscience. Parce que votre mauvaise conscience, c'est le radar, vous voyez, de vitesse qui vous dit, j'ai encore l'ancienne version de Waze, donc ça me dit encore exactement où sont les radars. Bip, 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 attention, radar à 300 mètres, à 250 mètres. Ça, c'est la mauvaise conscience. La bonne conscience, elle est silencieuse. Notre cœur, il est fait pour le bonheur. Et quand nous essayons de vivre le bonheur, eh bien, notre cœur, il est en paix. Et donc, il est silencieux. Et c'est simplement quand ça ne va pas que notre cœur se met à crier. Pour Aristote, le bonheur... C'est pas un état. Je ne suis pas dans un état de béatitude où j'ouvre juste le bec et le bon Dieu, ou la vie, ou mon conjoint, ou mes enfants, ou mon entreprise me comble de dividendes à la fin de l'année. Si vous en connaissez, moi ça m'intéresse. Hein. Ça coûte cher le parapente. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être hyper dynamique dans son cœur pour pouvoir découvrir le bonheur. Et Aristote dit, le bonheur, c'est une activité de l'âme selon la vertu. Une activité de l'âme. Il faut se bouger pour être heureux. Il faut faire quelque chose, il faut le vouloir. Il faut faire d'une situation difficile quelque chose de beau. Il faut faire d'une situation belle quelque chose d'encore plus beau. Il faut être ouvert à ce que Dieu va me dire de nouveau et ce que la vie va me dire de nouveau. Ça, c'est une activité de l'âme. Le bonheur, il se construit activement. Eh bien ça, vous voyez, ça empêche cette deuxième fausse stratégie de trouver des fausses excuses. Et puis, le troisième élément, j'en disais un mot tout à l'heure, je passe très vite, déplacer le problème sur des éléments extérieurs à la relation. Vous voyez, sur le caractère, sur les circonstances, sur... Pour ne pas entrer dans cette posture humble qui demande de se regarder soi-même. Et j'en viens à ce deuxième sous-point du troisième point, après les fausses stratégies, l'attitude d'humilité vraie, qu'est-ce que c'est ? De découvrir un peu mieux qui je suis. J'ai envie de dire, toujours pour vous donner une petite typologie pour que ça soit plus facile à retenir ou à noter, je voudrais vous donner quatre tout petits points extrêmement rapides que je commente en une phrase chacun. L'humilité de l'intelligence du cœur, de regarder que le roi que je suis est nu. Et accepter de se regarder dans son imperfection. L'humilité de l'intelligence du cœur. Le deuxième niveau d'humilité, ce n'est pas les 13 niveaux d'humilité de Saint Benoît dans sa règle de vie, mais je vous en donne juste 4. Les autres, vous les lirez chez lui. L'humilité du cœur... De confier sa pauvreté à son conjoint. Comme c'est difficile. Moi, je pense à, dans un des prieurés où j'ai été, il y avait un de nos frères qui était alcoolique. Depuis des années, un de nos frères de Saint-Jean. prophète perpétuel dans la communauté depuis une vingtaine d'années, etc. Eh bien, un frère alcoolique, c'est pas un frère qui va parler de ça à ses frères. Eh bien, tant qu'il n'en parlait à personne, ça s'aggravait. Quand, pour plusieurs raisons diverses et variées, y compris grâce à des amis proches du prieuré, il a commencé à en parler à ses frères, eh bien, on a pu lui proposer un chemin. Et le frère s'en est sorti, avec beaucoup de courage et d'humilité, en allant passer 3 semaines dans une clinique spécialisée, où il était comme tout le monde, en train de parler de ses difficultés avec la boisson, et en plus qu'il était religieux, et que, qu'il assistait à la messe tous les jours, et qu'il communiait au précieux sang tous les jours, et donc qu'il avait une addiction à l'alcool qui était venue de son histoire personnelle, sur laquelle il a fallu travailler. Eh bien, le fait d'avoir pu commencer à confier à ses frères qu'il y avait quelque chose de fond qui n'allait pas, et que ça allait de moins en moins bien, eh bien, ça a pu être le départ de quelque chose d'autre. Troisième point, l'humilité du cœur, de demander pardon à l'autre, justement de n'être que ce qu'on est. Et puis, le plus difficile, sans doute, c'est la capacité, c'est le quatrième point, le quatrième lieu d'humilité, la capacité et la décision de pardonner à l'autre, de n'être que ce qu'il est, parce qu'il est lui ou elle, comme moi, en chemin. Alors je reviens juste sur les deux premiers et le dernier, parce que le troisième, j'ai donné un petit exemple. Mais l'humilité de l'intelligence du cœur de regarder en face que le roi que je suis est nu, que je suis pas si extraordinaire que ça. Il faut du temps pour commencer à regarder son propre cœur et découvrir que mon histoire de vie, elle n'est pas si extraordinaire que ça dans toutes ses dimensions. Si vous deviez vous donner une note de 1 à 10, non pas sur vos réalisations professionnelles, non pas sur vos liens sociaux, sur votre générosité, sur vos engagements dans l'Église, mais sur la capacité de votre cœur de vivre tout ce qu'il a à vivre. Et 10, c'est ce que vous serez dans l'éternité. Quand vous aurez pleinement ouvert votre cœur à tout ce que Dieu voulait faire de votre vie, vous ne mourrez de rien d'autre que d'amour, chers frères et sœurs. Quand l'heure de votre mort arrive, c'est que votre cœur est pleinement ouvert à ce que Dieu voulait faire de lui et que vous dites oui au dernier grand passage pour vivre pleinement, définitivement, de ce à quoi vous avez dit oui à 99,9% juste avant votre mort. Eh bien, aujourd'hui, vous mettriez quoi comme note ? Chacun pour soi, évidemment. Moi, je me mettrais entre 1 et 2. Et pourtant, je suis déjà plus que la moitié de ma vie, sauf si je vis jusqu'à, je ne sais pas quel âge. On a besoin de beaucoup de maturité pour découvrir en vérité, avec un regard de vérité qui soit pas simplement celui de la justice, mais qui soit aussi celle de l'amour, d'apprendre à s'aimer et à se regarder avec profondeur, avec lucidité et avec humilité. Parce qu'encore une fois, saint Thomas dit, la différence entre l'intelligence et la volonté, c'est que l'intelligence, elle saisit tout de suite la réalité, de manière intuitive, immédiate. La volonté, elle a besoin de beaucoup de temps pour s'approprier les choses. Aristote dit dans l'éthique à Eudème, pour devenir ami, il faut manger un boisseau de sel ensemble. Alors j'avais fait le calcul, à 3 grammes de sel par jour et au nombre de repas qu'on prend ensemble, si on mange tous les midis, tous les soirs ensemble, il faut une dizaine d'années à peu près, pour avoir, selon Aristote, pour devenir des vrais amis. Et il faut 10 ans pour ouvrir son cœur à son conjoint, et il faut une seconde pour voir ses défauts. Oui, ses qualités aussi peut-être. Waouh, elle a des yeux revolvers. Eh bien, le temps d'apprendre à apprivoiser ce regard intérieur, non pas sur l'autre, mais sur soi-même, ça demande une vraie maturité dans la vie. À 20 ans, ce n'est pas du tout la préoccupation. Donc, il faut s'être accepté soi-même, avoir aussi connu des échecs, on n'a pas réussi tout ce qu'on voulait faire, pour se dire, eh bien, ma carrière, elle ne sera pas comme ça, quoi. J'arriverai pas à atteindre ce que je voulais, elle sera peut-être plus comme ça, et voilà, j'aurai peut-être un autre chemin de vie où il n'y aura pas que la carrière qui comptera. L'humilité du cœur de confier sa pauvreté au conjoint, je crois que ça c'est un élément clé. Est-ce qu'on est capable d'accepter, d'entrer dans ce regard vrai et confiant les uns sur les autres, de se dire aussi, en couple, sans témoin, les lieux où on a du mal à vivre 5 minutes, à vivre non pas simplement sa propre vie, mais aussi le lien avec le conjoint. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on se dit, moi j'ai fait l'expérience en arrivant, après quelques années d'Autriche, quand nos sœurs contemplatives, que nous avions invitées à venir fonder avec nous, nous ont rejoints. La première sœur contemplative, c'était une jeune prieure carrée, tout était dans les cases, etc. On s'est disputé avec elle du premier jour au dernier jour. Ensuite, 2 ans après, elle est partie, et je me suis dit, on ne va pas recommencer les mêmes bêtises, à se disputer, il faut commencer sur une base nouvelle. Donc, il y avait un casier des sœurs chez nous, on pouvait mettre des petits mots, c'était comme ça qu'on se mettait les informations avant ou après la messe. Et donc, j'ai mis un premier petit mot à la prieure sans la connaître, en disant « Ma sœur, je ne vous connais pas encore, mais je vous souhaite la bienvenue dans notre prieuré en Autriche. Et voilà les belles choses que Dieu a déjà faites dans notre prieuré et auxquelles on voudrait vous associer. » Et bien, ça a complètement changé les relations parce qu'on avait commencé par dire des choses positives. Ce qui fait que quand on avait des choses plus difficiles à se dire, c'était porté par autre chose. Et la deuxième étape de ça, c'est arriver à se dire aussi les lieux de fragilité qu'on porte. Moi, mon histoire de vie, elle est comme ça. Mais quand on se dispute, les raisons pour lesquelles vous vous disputez sont souvent complètement secondaires par rapport à l'énervement de la dispute. Si votre maman, mesdames, vous a toujours dit que vous n'arriveriez à rien dans votre vie et que votre mari vous dit un jour que vous êtes une incapable, pourquoi ça vous blesse particulièrement ? Parce que ça réveille ce sentiment d'inexistence ou de nullité que vous avez vécu comme petit enfant et qui vous a empêché d'avoir une identité forte. Pareil pour les hommes sur autre chose, ou sur la même chose. Donc ça veut dire que la raison de la blessure, elle est souvent complètement disproportionnée par rapport à la blessure. La blessure est souvent beaucoup plus forte quand ce qui m'énerve chez l'autre appuie sur un lieu douloureux de mon histoire de vie personnelle. Mais je n'ai pas de raison de faire porter à l'autre ma colère, ma hargne, ma tristesse, mon désespoir, si ça, l'autre il en est juste le catalyseur, mais qu'il n'en est pas la cause. Eh bien ça demande de dire à l'autre, tu sais, moi, dans ma vie, ça a été difficile, donc ça demande de savoir le dire à soi-même, et donc de le recevoir dans la prière, de demander à l'autre, dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Nous, on a changé un peu de vitesse dans nos prières, dans la communauté Saint-Jean, quand on a commencé à oser se dire, dis-moi, dans ma manière de vivre avec toi, mon frère, ce qui te dérange. Ce qui ne va pas, ce qui te gêne, ce que tu ne comprends pas, ce qui te choque. Un jour, il y a un de mes frères qui m'a dit, on fait ça le jeudi saint, on appelle ça le chapitre de culpe, où on se demande pardon des choses objectives, d'avoir roulé trop vite et d'avoir eu une contravention à 200 euros, d'avoir, je ne sais pas quoi, parfait le plein de la voiture, donc pas des péchés personnels, mais des choses qui touchent le bien commun. Et puis après, on peut se dire les uns aux autres des choses qui ne vont pas. Et moi, qui me couchais toujours tard parce que je travaillais intellectuellement, j'avais un frère hyper couche-tôt. Et le frère me dit, un jour, où on avait décidé de se dire d'abord les choses positives, il m'a dit, frère Denis, t'es un frère qui est un grand vivant. Moi, je suis un petit vivant intellectuel. Moi, à 9h du soir, je suis sous ma couette et j'ai besoin de dormir. Et quand jusqu'à 3h du matin, j'entends des livres qui tombent à côté, dans la cellule d'à côté, parce qu'on avait un frigo en bois, donc c'était assez sonore, il me dit, je me réjouis de voir que mon frère travaille, mais ça ne m'aide pas à être gentil avec toi le lendemain matin. Alors, pour m'aider à être aimable avec toi, moi qui ai un capital de vie extraordinairement limité, est-ce que tu pourrais m'aider à être gentil avec toi le lendemain en faisant un petit peu moins de bruit le soir, en descendant les livres dont tu vas avoir besoin sur ton bureau pour pas qu'ils tombent de ton étagère et que ça me réveille. Vous voyez, dis gentiment, en acceptant aussi qu'on n'avait pas la même capacité de travail, eh bien, il me faisait avancer en me disant quelque chose de beau. On ne fait pas ça très souvent dans les couples. Moi, je connais un couple avec des enfants. Quand les enfants se disent des choses pas gentilles entre frères et sœurs, la punition, c'est qu'on doit se dire 5 choses gentilles l'un sur l'autre. Celui qui a dit une chose méchante, il passe pas au plat suivant à table quand il n'a pas dit 5 choses gentilles à l'autre. Essayez en couple. Vous me dites combien de temps vous tenez. Je tiens le record. Vous avez un bonus pour un week-end de couple à Troussure si vous arrivez à tenir plus que 48 heures. Voilà, troisième petit point, l'humilité du cœur de demander pardon à l'autre en disant, ben, tu vois, moi, je reste hyper limité. En fait, je ne sais pas bien aimer. J'ai entendu un jour une confession d'une petite grand-mère qui venait se confesser dans une paroisse voisine de notre village en Autriche et qui me dit, moi, j'ai rien à dire en confession. Pourquoi venez vous confesser ? Alors, elle prend la bouche, elle me dit, quand vous aurez mon âge, 72 ans, et que vous aurez servi l'Église pendant 50 ans, vous saurez ce que c'est qu'une vie chrétienne. Oh, je me suis dit, là, ma vieille, tu vas en avoir pour ton grade. Et alors, j'ai dit, chère madame, je pense que vous êtes passée à côté du sens de l'existence. Parce que là, vous venez de me confesser à la fois l'orgueil, l'inconnaissance de vos péchés, le refus de vous convertir. Ça se rapproche beaucoup du péché contre l'Esprit Saint dont parle Jésus, celui qui ne sera pas pardonné et qui nous vaut l'enfer. Là, j'ai vu la petite dame de 72 ans commencer à... Alors, j'ai dit, on recommence, maintenant, on parle de vous. Et des choses dans votre cœur où, en fait, ce que vous pouvez confesser à chaque fois que vous allez vous confesser, c'est que vous êtes incapable d'aimer et vous le voyez bien là, en face du Seigneur. Après, je me suis fait engueuler par le curé qui m'a dit « Celle-là, tu l'as pas raté, ma petite amie. » Moi, j'ai jamais réussi à lui dire ça. Heureusement que c'était pas toi le curé et que tu venais de l'extérieur, quoi. Il dit « Bah, je suis content de lui avoir dit ça. » Voilà. Confier à l'autre et lui demander pardon de ne pas être plus que ce qu'on est parce qu'on est extraordinairement limité. Je ne sais pas t'aimer comme tu le mériterais, mon chéri, ma chérie. Cher frère, je n'arrive pas à t'aimer comme tu le mériterais. Et bien, quand on commence à être capable de dire ça, on entre dans une vraie posture où on ne va pas pouvoir y arriver tout seul. Et c'est là que le déclic se fait. C'est que quand j'accepte que la croissance de mon cœur, je ne suis pas qu'en position de force par rapport à l'autre. C'est super facile d'aider les autres quand ça va bien. Mais accepter de se laisser aimer quand on est en situation de pauvreté, ça demande une humilité qui s'acquiert par tout petit bout au long de toute une vie. Comment le Christ se saisit de cette attitude d'humilité? Eh bien, c'est découvrir trois choses, que je ne commente pas parce que l'heure est déjà passée. L'autre n'est pas Dieu, il est une créature, et ne vous prenez pas pour Dieu. Ça vaut aussi pour nous les prêtres, et dites-le-nous, répétez-le-nous quand vous avez l'impression qu'on se prend un peu pour Dieu. Dites-nous, mais mon père, c'est pas vous qui allez convertir cette personne, c'est pas vous qui allez changer les choses dans la paroisse. C'est l'Esprit Saint. Ah, ça change pas mal les choses. L'autre n'est pas Dieu, il est créature, dans le temps, dans l'espace. L'autre n'est pas l'amour parfait, il est un amour créé, et donc un amour second par rapport à l'amour de Dieu. Dieu est l'amour parfait, le conjoint n'est qu'un amour imparfait. Et malgré tous les efforts qu'il va faire, il restera un amour imparfait. Et l'autre n'est pas sans péché, il est soumis à l'emprise du péché, de ses passions, de ses envies, de ses égoïsmes, de ses blessures. Et tout ça, malheureusement, ça va avoir une répercussion dans le couple, dans la famille. Moi, je me souviens d'une de mes nièces, Charlotte, l'aînée de ma sœur Sophie, qui avait 4 ans et demi et que j'entendais hurler dans la chambre des enfants un jour en Bretagne sur sa petite sœur, mais d'une manière en riant. Elle était en train d'engueuler sa petite sœur avec les mêmes mots que ma sœur Sophie quand elle engueule ses enfants. Donc je rentre et je voyais la petite Charlotte qui disait alors « Si tu continues comme ça, je vais te foutre une torgnole !» Et tu vas voir, et papa quand il va rentrer, il va t'en mettre une deuxième. Et moi je rigolais parce que je voyais les attitudes et les mimiques de ma sœur. Et ma sœur, donc la mère des enfants, arrive, me voit écroulée de rire devant les deux gamines et me dit « C'est pas drôle du tout !» en prenant les mêmes intentions de voix qu'il y avait eu de mes temps. Alors je dis « Mais si Sophie, c'est hyper drôle quoi !» Et alors après, quand on en reparlait avec elle et son mari, je disais « Mais ils tiennent de qui ces enfants, leur colère ?» Alors ils tiennent toujours des grands-parents, vous voyez, de l'oncle machin qui est lointain, etc. Mais ils tiennent pas de nous parce que nous, on n'est pas comme ça. Eh bien, si, vous êtes comme ça. Et nous le sommes tous, quoi. Donc, nous sommes aussi soumis au péché. Et alors, si vous relisez Philippiens 2, 6, 11, sur le Christ, qui était de condition divine, qui ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, il s'anéantit lui-même, prenant condition de serviteur et devenant semblable aux hommes, etc., etc. Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort. Le Christ nous dit qu'être grand, c'est être petit. J'ai accompagné il n'y a pas très longtemps un groupe à Patmos. Quand on lit l'Apocalypse de Saint Jean, le dernier livre de la Bible, et qu'on cherche, si vous ne voulez pas dormir une nuit, mais ça va vous donner plein d'espérance, si vous cherchez qu'est-ce que dit l'Apocalypse sur le pape, les évêques, les prêtres, le magistère de l'Église, toute la hiérarchie, tout le côté visible, l'autorité, etc., rien. Celui qui a l'autorité dans l'Apocalypse, celui qui a l'autorité d'ouvrir le livre qui est le plan de Dieu sur l'humanité de la fin des temps, eh bien c'est le Christ. Et la raison pour laquelle l'agneau immolé a le droit d'ouvrir les sceaux, c'est parce qu'il est mort. L'autorité dans l'Église, dans l'Apocalypse, l'autorité dans l'Église de la fin des temps, l'autorité dans l'Église dans le ciel, ça sera ceux qui ont choisi d'être aussi humbles que le Christ qui donne sa vie sur la croix, mais concrètement, pas théologiquement ou spirituellement, concrètement. L'autorité dans l'Église, elle ne repose pas sur le pouvoir, comme dans le droit romain que l'Église catholique a repris à son compte. Elle repose sur la capacité de devenir serviteur du cœur de ceux qu'on aime, en devenant instrument de grâce pour eux, en donnant sa vie comme le Christ a donné sa vie. Ça change complètement, vous voyez, toute notre conception de l'Église. Ça ne veut pas dire que la conception de l'Église qu'on a, elle est invalide, mais elle a à se transformer, à se laisser transformer par le grand travail de l'Esprit-Saint sur l'Église du temps d'aujourd'hui que le pape François essaye d'aider à accoucher un peu plus, pour découvrir que c'est celui qui se met dans la posture du Christ dans l'Épître aux Philippiens, lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il décalait à Dieu. Si en couple vous arrivez à vous rendre humble l'un par rapport à l'autre, pour
partagez à l'autre vos faiblesses et en disant « j'ai besoin de ta force pour porter ma faiblesse ». Et non pas simplement « je vais te donner ma force quand toi tu seras faible, et plus tu seras faible, plus je vais te montrer que moi je suis capable d'être fort ». Mais d'être aussi en posture de faiblesse, vous mettre à l'école du Christ, et laisser le Seigneur Jésus vous dire que ce qu'il veut pour votre couple, c'est tellement plus grand que tout ce que vous pourrez inventer avec votre petite tête, avec votre petit cœur, avec vos petites idées, et pareil pour la vie religieuse, et pareil pour une communauté religieuse, et pareil pour l'Église tout entière. Ça veut dire que la manière, voyez, de se pardonner et de se faire pardonner de n'être que ce qu'on est, elle peut se vivre qu'à l'école de celui qui l'a vécu pleinement. Le Christ est le seul qui va jusqu'au bout de ce témoignage, dans sa vie et dans sa mort, de dire « La seule manière que vous puissiez jamais douter de ce que j'aurais fait pour vous, moi le Christ, pour vous, mes enfants, c'est de vous manifester un amour et une manière de vous aimer qui transcende toutes les divinités du panthéon grec et du panthéon latin. » Ce qui choquait les Juifs des premiers siècles, c'était de voir le Dieu des chrétiens qui était un dieu de faiblesse et pas un dieu de force. Il n'y a aucun dieu de l'Antiquité qui se présente dans la faiblesse. Le dieu des chrétiens, il se présente dans la faiblesse. Eh bien, ce dieu-là, il a quelque chose à dire à ma manière de vivre ma vie chrétienne en face de toi, mon conjoint. Moi, je peux vous dire les guérisons qu'il y a eu dans des familles ou des parents qui avaient fait des énormes bêtises par rapport à leurs enfants sur l'éducation, sur la violence physique, je pense à ça en particulier. Eh bien, on demandait pardon à leurs enfants devenus adultes, de ce qu'ils avaient été des mauvais parents, de ce en quoi ils avaient été des mauvais parents, même s'ils n'avaient pas été bien sûr que des mauvais parents, eh bien il y a des guérisons dans le cœur des enfants qui se réalisent, et des reconstructions et des résurrections, parce que des parents acceptent de dire à leurs enfants qu'ils n'ont pas été des parents parfaits. Eh bien ça c'est aussi possible dans un couple, et dans une phase où le couple va moins bien. Et là vous entrez, et je termine par là, dans ce regard de Dieu qui est celui de la miséricorde. Ça ne gêne pas Dieu que nous soyons des pauvres. Parce que s'il n'avait pas voulu qu'on soit des pauvres, il nous aurait créés comme des anges dans la gloire éternelle, ou quasiment dans la gloire éternelle, et il n'y aurait pas eu besoin de ce long travail d'enfantement, d'une vie de couple qui ne se réalise pas sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, mais sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans ou sur 70 ans. Parce que ce temps qui vous est donné, en tant que couple, qui nous est donné en tant que chrétien, c'est de découvrir que grandir, c'est se laisser éduquer par le Christ. Et que nous ne serons pleinement nous-mêmes que quand nous aurons eu le courage d'oser grandir alors même que nous n'en avions pas envie. Et Dieu est patient. Quand vous voyez le temps qu'il prend pour nous dire son amour au long des siècles, on se dit, mais comment Dieu peut-il ne pas se lasser de nous aimer ? Moi, quand je fais des camps et qu'au bout d'un moment, on n'écoute pas ce que je raconte ou qu'on ne respecte pas l'emploi du temps, eh ben, je m'énerve. Eh ben, le bon Dieu reste patient, continue à dire sa miséricorde à tous les âges, à toutes les générations. Plus l'humanité s'avance et plus les confessions se divisent. Le Christ, en Jean 17, a prié pour l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, on a 35 000 confessions chrétiennes et on a à peu près 300 de plus chaque année. Le monde s'unifie et les églises se divisent. Et Dieu regarde ça en disant, c'est pas grave, c'est moi qui vais gagner à la fin. Comme disait une des guides de Patmos avec un pentecôtiste américain qui était venu avec son groupe, il a dit à son groupe, je ne vous explique pas l'Apocalypse, c'est pas intéressant, c'est trop compliqué. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une bataille et c'est Jésus qui gagne à la fin. C'était un bon résumé. Alors moi, je ne vous dis pas qu'il y a une bataille et que c'est Jésus qui gagne à la fin. Je vous dis que apprendre à se pardonner de n'être que ce qu'on est, c'est un merveilleux chemin où nous entrons dans l'humilité du Christ qui nous apprend à vivre l'amour dans la pauvreté et dans une pauvreté qui ne passera pas. Accepter qu'on va rester des pauvres toute notre vie. Une des premières révolutions du pape François, c'est mon dernier mot, c'est quand on lui a posé un peu la question de savoir ce que c'était que la place des pauvres dans l'Église. Il a dit une chose absolument effroyable qui va vous toucher autour de cette petite conférence parce que vous allez voir que c'est notre lot à tous. Il a dit, les pauvres ne sont pas dans l'Église les adressataires privilégiés de l'option préférentielle pour les pauvres, ceux qu'on va voir en disant dans chaque paroisse, il faut qu'il y ait la Caritas, il faut qu'on s'occupe de ceux qui n'ont rien à manger, etc. Le pape François n'a pas dit ça. Il a dit, les pauvres, ils sont le cœur de l'Église. Et il rappelle à l'Église qu'elle est elle-même pauvre et qu'elle a elle-même besoin du Christ chaque jour de son pèlerinage pour devenir un peu plus ce que le Christ veut qu'elle soit. Alors je termine parce que vous êtes des coups, parce que ça me tient très à cœur, il faut qu'on continue à prier pour ça. L'histoire du synode des familles, avec notamment la fameuse question des divorcés remariés, qui
qui, quand on est couple, j'espère vous touche parce que vous avez sûrement tous ça autour de vous. Peut-être que vous êtes même dans cette situation. Eh bien, moi, je vais vous dire une parole. Je ne sais pas si elle est prophétique, j'ose pas dire ça parce que c'est enregistré. Mais en fait, je vous dis juste une parole et j'arrête là. C'est que, est-ce qu'on oserait, chers frères et sœurs, sortir un peu du débat, ne pas changer l'enseignement de l'Église, appliquer la pastorale? Est-ce qu'on est du côté de la doctrine ou du côté de la pastorale? Je crois que le débat est complètement faussé et qu'on ne trouvera jamais une solution si on part comme ça. Moi, je préférerais que nous regardions nos frères et sœurs divorcés, remariés, puisqu'on parle des couples ce soir, qui sont dans une situation canonique qui n'est pas idéale, comme ceux qui sont au cœur de l'Église, comme je commençais tout à l'heure en vous disant que vous êtes au cœur de l'Église parce que vous êtes des couples. Et est-ce qu'on pourrait accepter de regarder nos frères et sœurs divorcés, remariés en disant ils sont au cœur de l'Église, un couple qui se dit à lui-même et qu'il dit à l'Église qu'il n'est pas parfait et qu'il a aussi besoin d'être converti par la grâce de Dieu tout au long de sa vie de couple, et que même s'ils ne se séparent pas pour recomposer des pseudo-couples déconstruits de chacun de leur côté, etc., et bien même si un couple divorcé marié reste divorcé marié toute sa vie, peut-être qu'il dit à l'Église que l'imperfection radicale de ce qu'ils vivent, eh bien c'est l'imperfection radicale de chacun d'entre nous. Pas canonique, mais profonde, que nous sommes pécheurs, et que nous aussi nous avons besoin de la grâce de Dieu, peut-être pas au niveau canonique, mais en tout cas au niveau personnel, pour nous laisser conquérir davantage par l'amour de Dieu. Eh bien ça s'appelle la miséricorde de Dieu qui vient rencontrer notre humilité. Alors vous voyez, se pardonner mutuellement de n'être que ce que l'on est, c'est en fait entrer dans le regard de Dieu sur nous de manière très concrète. C'est lier ce qu'il y a de plus grand dans le regard de Dieu sur nous, qui est le désir de la miséricorde de Dieu, de s'exercer, de se donner à chacun d'entre nous, le lier à ce qu'il y a presque de plus quotidien, d'être confronté au quotidien aux limites les uns des autres. Et j'arrête là.